Si la vie c'est je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit, les étoiles c'est de la vie.
Microlab, Radio Campus Grenoble 90.8.
Mais personne n'en a rien à foutre de considérer qu'une étoile est de la vie parce qu'on n'a pas de contact.
14h, 14h30. Avec Julie Amand, Emma Duboc et Obi Ranarison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Microlab. Déjà le troisième aujourd'hui, merci de nous retrouver dans une émission exceptionnelle autour d'une grande découverte scientifique. Nous commencerons par le journal de Microlab avec les actualités scientifiques. CRISPR-Cas9, ça vous dit quelque chose ? Pas de panique, vous apprendrez tout de cet outil qui a révolutionné la biologie dans le grand entretien. Pour parler de ce sujet aussi passionnant qu'intrigant, nous accueillerons dans quelques minutes Pauline Le Tanneau et Camille Sayou. Vous connaissez le programme, il ne manque plus que l'équipe. Cette semaine, c'est Emma qui nous présentera le journal. Salut Emma.
Salut Julie.
Comment ça va ?
Imhotep.
Et Obi continuera avec le grand entretien. Salut Obi.
Salut à tous, salut Julie.
Comment ça va ?
Ça va impeccable et cette semaine, petite nouveauté puisque je serai pas seul, je serai avec toi aussi pour ce grand entretien, pardon, j'en perds déjà les mots, gros dossier en tout cas.
Oui, c'est vrai qu'on va faire un entretien sur CRISPR-Cas9. Les présentations sont faites, nous pouvons commencer. Vous écoutez Radio Campus Grenoble sur le 90.8, le troisième épisode de Microlab, c'est parti. Pour commencer, Emma, tu reviens sur les actualités scientifiques dans le journal de Microlab.
Dans ce journal, on trouvera des microplastiques, des biberons, un organe caché, des ciseaux génétiques, des femmes de science et un Nobel.
Tu commences par nous parler des risques liés aux microplastiques dans les biberons pour bébés.
Tout d'abord, il y a un chiffre fou, une moyenne de 4 millions. Une étude d'une équipe du Trinity College de Dublin a quantifié les particules de plastique invisibles qui flottent dans le lait infantile après sa préparation dans un biberon en polypropylène. Les biberons en polypropylène, un polymère plastique souvent utilisé pour les emballages alimentaires, se sont démocratisés suite à l'interdiction des biberons contenant du bisphénol A en Europe, il y a près de 10 ans. Et ces biberons représentent plus de 82% de la totalité des biberons utilisés dans le monde. Et donc, à l'Université de Dublin, les chercheurs ont sélectionné un échantillon de 10 biberons en polypropylène et pendant 21 jours, pendant 21 jours, l'effet de leur utilisation et stérilisation répétée sur le rejet de particules de plastique a été évalué. Ils ont été rincés et trempés dans de l'eau à 95 degrés, laissés sécher à l'air ambiant, remplis d'eau à 70 degrés et secoués, puis leur contenu a été filtré. Alors, ce protocole s'est fait selon les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Et nous revenons donc à notre premier chiffre. En moyenne, 4 millions de microparticules de plastique sont relâchées dans ce processus de préparation du lait maternisé dans les biberons en polypropylène pour 1 litre de lait. Ce chiffre peut même s'élever jusqu'à 16 millions de microparticules par litre dans certaines expériences. Alors la température élevée et l'action de secouer sont des facteurs qui augmentent la libération de microplastiques. Cela peut paraître incroyable, mais à ce jour, les spécialistes ne savent toujours pas si l'ingestion de ces microplastiques a réellement un impact sur la santé humaine. Alors que ces microplastiques sont de plus en plus présents dans l'eau potable, l'OMS appelle à davantage de recherches sur le sujet. Dans le cas des biberons, le problème, c'est que la stérilisation et le chauffage du lait, donc le chauffage du lait en d'autres termes des températures propices à la libération de plastique, sont indispensables pour détruire les bactéries. Et donc, par conséquent, les risques posés par les microplastiques sont à mettre en balance avec les risques d'exposition des nourrissons à des bactéries nocives.
Et maintenant, place à une découverte qu'on n'attendait pas.
Effectivement, un groupe de médecins a récemment découvert par accident une paire de glandes à l'intérieur du crâne. Alors, le corps humain, cette machine complexe, contient plus de 200 os, plusieurs dizaines à plusieurs millions d'organes, selon la manière dont on définit le terme organe, et environ 200 types de cellules. Alors, il n'est pas si étonnant, vu ces chiffres astronomiques, qu'une ou deux structures aient pu échapper à l'attention des chercheurs. Et cette découverte a été réalisée alors que les médecins examinaient un échantillon de 100 patients atteints de cancer de la prostate. Grâce au PSMA PET scan, fréquemment utilisé pour la détection et le suivi du cancer de la prostate, et à l'injection d'un traceur radioactif, les chercheurs sont capables d'identifier les tumeurs dans le corps. Néanmoins, dans ce cas précis, c'est un tout autre élément que la combinaison des deux procédés a permis de mettre en lumière. Une paire de glandes salivaires situées à l'arrière du, attention, mot compliqué, nasopharynx, donc la portion des voies respiratoires partant du nez et débouchant sur l'oropharynx, donc provenant de la bouche, s'est éclairée en parallèle de trois autres déjà connues des anatomistes. Donc ces petites nouvelles, ces glandes, ont été baptisées glandes tubariales. Dans l'étude qu'ils publient dans la revue Radiotherapy and Oncology, les chercheurs disent qu'à leur connaissance, cette structure ne correspond à aucune des descriptions anatomiques antérieures. Si elle est confirmée, leur découverte pourrait être cruciale, notamment dans le calibrage des sessions de radiothérapie, les glandes salivaires étant particulièrement fragiles.
Enfin, et pour introduire l'entretien, le prix Nobel de chimie 2020.
Deux femmes, prix Nobel de chimie 2020. La Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna se sont vues attribuer le prix Nobel de chimie le 7 octobre dernier. Un duo féminin qui remporte ce prix en chimie, c'est une première dans l'histoire du Nobel. Leur collaboration a permis la mise au point de la technologie CRISPR-Cas9, souvent présentée comme un ciseau génétique de précision permettant d'éditer une séquence ADN au sein même d'une cellule. Respectivement directrice du centre de recherche Max Planck pour la science des pathogènes à Berlin et professeure à l'université Berkeley en Californie, les deux lauréates deviennent les 6e et 7e femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901. Alors à l'origine, Emmanuelle Charpentier, cocorico, étudiait le système de défense d'une catégorie de bactéries contre des attaques virales, le système CRISPR-Cas, lorsqu'elle identifia une molécule capable de découper l'ADN. Elle publia cette recherche en 2011 et s'associa avec la biochimiste Jennifer Doudna, spécialiste de l'ARN, pour recréer les fameux ciseaux génétiques du micro-organisme en laboratoire. Le binôme parvint à en simplifier les composants de façon à ce qu'ils soient plus faciles à utiliser par la communauté scientifique et publia ses recherches dès 2012 dans Science. Cette technologie est depuis utilisée par de nombreuses équipes de recherche. Et Emmanuelle Charpentier, plébiscitée depuis par la presse, depuis l'obtention de ses Nobel, appuie que son parcours à l'étranger lui a permis de mener cette carrière et d'obtenir cette belle récompense.
Merci Emma pour ce journal. C'était donc le journal de Microlab. On se retrouve dans quelques instants dans le grand entretien. À tout de suite.
Paranoia makes me sore. Our plate is swimming. bird. It's the knob where the bed is, with the rounded and curvy. It's going topsy-turvy. What a delight. Looks like there'll be a fight between the fascist and curvy and the simply unworthy.
C'était Spite de Man on the Sea. Vous écoutez toujours Microlab sur Radio Campus Grenoble. Place maintenant au grand entretien.
Et cette semaine, dans le grand entretien, Julie, gros plan sur une des révolutions scientifiques majeures de ce 21e siècle. Son nom, CRISPR-Cas, au cœur de l'actualité, notamment grâce au prix Nobel de chimie récemment décerné il y a quelques semaines encore à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Alors, ciseaux génétiques, ciseaux moléculaires, édition du génome, de quoi parle-t-on? Quelle est réellement cette technique et quelles en sont ses limites? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Camille Sayou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur post-doctorante à l'Institut avancé des biosciences de Grenoble. Et Pauline Le Tanneau, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes médecin généticien au CHU de Grenoble. Merci d'être au micro de Radio Campus Grenoble. Alors, CRISPR-Cas9 est intimement lié à la génétique. On va le voir dans quelques instants. Mais d'abord, eh bien, comment en est-on arrivé jusqu'ici? Alors, il faut remonter au 19e siècle, tout d'abord au début de la génétique en 1865 avec Mendel et la découverte de l'hérédité par le biais des lois de ce dernier. Et oui, à ce moment-là, il n'est pas encore question de parler de matériel génétique puisqu'il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1944 avec la découverte de la fonction de l'ADN grâce à Avery, McCarthy et MacLeod. Sa structure est découverte donc quelques années plus tard, en 1953, grâce à Watson et Crick, avec la fameuse structure dite de double hélice. Et c'est au début du XXIe siècle que l'avancée dans ce domaine est significative, puisqu'en 2003 est réalisé pour la première fois le séquençage du génome humain, une première dans l'histoire de l'espèce animale. Mais la manipulation du génome a débuté quant à elle bien avant, dans les années 80, avec notamment la modification d'un génome d'une souris, suivi d'une plante, le tabac, quelques années plus tard. Et enfin, c'est en 2015 que le tournant s'amorce avec la première modification génétique, cette fois d'embryons humains, réalisée avec la technique CRISPR-Cas9, sur laquelle on va revenir en long et en large dans quelques instants, n'est-ce pas Julie ?
Oui, tout à fait. Première question, Pauline Le Tanneau, et Camille Sayou. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment fonctionne CRISPR-Cas? Quelle est la méthode employée?
Oui, alors CRISPR-Cas9, donc c'est une méthode biotechnologique qui permet de cibler spécifiquement une région de l'ADN d'un génome et de la modifier. Alors, à l'origine de cette méthode, il y a un phénomène qui existe dans la nature, un système de défense inventé par les bactéries pour se protéger contre les virus. Lorsqu'elles sont infectées par un virus, certaines bactéries conservent la mémoire de cette infection sous forme de courtes séquences d'ADN appelées CRISPR. Ces séquences correspondent à des bouts d'ADN des virus que la bactérie a déjà rencontrés et qu'elle a intégrés dans son génome. Comme ça, la bactérie se constitue une sorte de bibliothèque où chaque livre correspond à un virus précis. Alors, quel est l'intérêt pour la bactérie d'avoir une bibliothèque de séquences de virus ? Lors d'une nouvelle infection, les séquences CRISPR correspondant au virus responsable de l'infection sont transcrites sous forme de petites molécules qu'on appelle l'ARN et s'associent à la protéine Cas9, Alors Cas9, c'est une enzyme capable de couper l'ADN. Alors grâce à l'information contenue dans l'ARN CRISPR et grâce à la fonction enzymatique de Cas9, le complexe CRISPR-Cas9 va se fixer spécifiquement l'ADN viral et le découper. Le virus est alors inactivé et la bactérie en est débarrassée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a transformé ce système en outil ? Donc c'est ce système qui a inspiré les chercheuses dont vous avez cité le nom tout à l'heure et qui ont obtenu le prix Nobel cette année. Et l'outil ressemble beaucoup au système bactérien. On l'utilise pour modifier à la carte l'ADN de la cellule de notre choix, que je vais appeler cellule cible. On dit qu'on édite son génome. Alors comment on s'y prend ? On donne à notre cellule cible deux éléments. Un ARN dont on choisit la séquence pour qu'elle corresponde à la région du génome qu'on souhaite modifier. On l'appelle l'ARN guide. Contrairement au système bactérien, où l'ARN cible le virus, ici il cible le génome de la cellule elle-même. Et on fournit aussi l'enzyme Cas9 qui nous sert de ciseau moléculaire. Le complexe CRISPR-Cas9 s'assemble dans la cellule cible et va couper son ADN à l'endroit précis qu'on avait choisi. La cellule va maintenant devoir réparer cette coupure. Elle peut s'y prendre de deux manières. Soit elle recolle les deux extrémités et elle inclut en même temps des erreurs qui vont altérer son génome et par exemple inactiver un gène. Soit on fournit à la cellule un troisième élément, une séquence d'ADN synthétique qu'on appelle ADN donneur. La cellule cible va l'utiliser pour réparer la coupure en l'intégrant dans son génome. On peut insérer dans cet ADN donneur toutes sortes de modifications que l'on choisit et que la cellule cible va incorporer à son génome. Alors maintenant, quel type de modifications peut-on apporter à un génome ? On peut par exemple inactiver ou altérer un gène en introduisant ce qu'on appelle des mutations. On peut aussi retirer un gène entier ou ajouter un nouveau gène qui n'existait pas dans la cellule cible. On voit ensuite apparaître plusieurs déclinaisons du système CRISPR-Cas9 où on utilise uniquement par exemple la fonction ciblage d'une région du génome mais sans la fonction de ciseau moléculaire. Pour ça, on a mis au point des protéines Cas9 qui ont perdu leur capacité à couper mais qui vont toujours nous permettre de cibler un gène donné. On peut alors, par exemple, moduler l'intensité avec laquelle la cellule va utiliser ce gène ou identifier les partenaires normalement présents dans la cellule et associés à ce gène. On peut aussi visualiser par des méthodes d'imagerie la position de ce gène à l'intérieur de la cellule.
Alors, merci, on a compris que c'était une... Là, ça y est, on est rodé au niveau technique. Moi, j'ai une question. Quels sont finalement les domaines d'application de cette technique aujourd'hui ?
Alors CRISPR-Cas9 a très nombreux domaines d'application pour la recherche fondamentale. On peut notamment l'utiliser pour étudier la fonction d'un gène donné. Pour illustrer cette application, je vais vous parler d'un travail récent. Il s'agit d'un projet collaboratif qui rassemble de nombreux cliniciens en génétique humaine, dont Pauline, et plusieurs équipes de biologistes, dont l'équipe dont je fais partie. Donc, dans cette étude, les cliniciens ont identifié un ensemble de patients qui présentaient des symptômes communs. Qui étaient des déficiences intellectuelles chez les enfants. Et ils ont identifié chez ces patients des mutations dans un gène donné, toutes dans le même gène. Ces mutations se trouvaient dans un gène particulier, donc qui s'appelle SMARCA2, et on ne savait pas dans quelle mesure ces mutations affectaient la fonction du gène. Pour répondre à cette question, on a utilisé un organisme modèle, qui était ici la levure de boulanger. C'est un modèle utilisé depuis longtemps pour mimer les maladies humaines, puisque 30% des gènes impliqués dans les maladies humaines sont présents chez la levure, et c'est le cas de SMARCA2. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit les mutations retrouvées chez les patients dans le génome de la levure modèle grâce à la méthode de CRISPR-Cas9. On a alors pu étudier le comportement des gènes mutants et en tirer des conclusions sur l'effet des mutations. Et grâce à ces expériences et grâce à plusieurs autres approches complémentaires, on a été amené à identifier un nouveau syndrome causé par des mutations génétiques. Et ces résultats vont pouvoir améliorer le diagnostic clinique pour les patients atteints de déficience intellectuelle. Une autre application consiste non plus à étudier la fonction d'un gène en particulier comme ce qu'on a fait, mais d'introduire des mutations sur l'ensemble des gènes connus. C'est ce qu'on appelle les cribles génétiques, et c'est des outils très puissants qui vont nous permettre d'explorer la fonction de l'ensemble des gènes d'un génome sans a priori.
Donc comme vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Pauline ?
Oui, je voulais compléter par d'autres utilisations possibles de cette méthode-là. Camille vous a parlé des modèles, des organismes modèles comme la levure, mais on peut également utiliser cette technique avec des modèles animaux, comme les souris, les rats, les moutons ou d'autres animaux. Et pour vous illustrer un petit peu ça, je peux vous parler d'un de mes tout premiers projets de recherche que j'ai fait en collaboration avec une autre équipe de l'IAB, qui s'appelle l'équipe Jetty. Et en fait, on est parti d'une cohorte de patients infertiles dont on ne connaissait pas la cause de l'infertilité. On savait juste qu'ils avaient tous des malformations des flagelles des spermatozoïdes. On a remarqué que plusieurs d'entre eux avaient une mutation dans un même gène qui était jusqu'ici inconnu. On suspectait donc que ce gène était responsable des malformations des spermatozoïdes. Donc en fait, on a créé des lignées de souris chez qui le gène en question était inactivé. Donc pour ça, on a injecté notre construction chez des embryons à un stade très précoce des souris qui visaient notre gène et qui l'inactivaient. On a ensuite reproduit les souris pour avoir des souris-sauts dont la quasi-totalité des cellules avait la mutation, avait le gène inactivé. Et on a laissé grandir ces souris, puis on a récupéré leurs spermatozoïdes pour voir s'ils avaient les mêmes malformations des spermatozoïdes que nos patients. Et on a pu aussi faire des études sur ces spermatozoïdes pour voir un peu quel était l'effet du gène très précisément. Et on en a déduit que ce gène était sûrement responsable des symptômes de nos patients. Et puis enfin, la dernière utilisation, celle qui fait beaucoup parler, c'est celle de la thérapie génique, qui est plus de l'ordre de la perspective que de l'utilisation pratique, enfin quotidienne. Donc c'est le fait de modifier le génome d'une cellule pour traiter une pathologie. Donc pour la thérapie génique, ça vise à traiter des maladies constitutionnelles, comme par exemple la mucoviscidose. Mais on peut aussi traiter des maladies infectieuses, en par exemple en cherchant à donner une résistance à un virus. Et on peut aussi traiter des cancers en rendant les cellules immunitaires plus agressives contre une tumeur. Il y a un peu deux façons de faire ça. Il y a la thérapie in vivo où on injecte directement le système à l'intérieur d'un organisme pour réparer un organe en particulier. Et on fait ça grâce à un vecteur qui est un vecteur viral. Donc c'est un virus en fait qui est inactivé, dont on vide de son contenu et qu'on remplace par le système CRISPR-Cas9. Et puis l'autre méthode, c'est la thérapie ex vivo. Donc ici, on travaille en dehors de l'organisme qu'on veut traiter. On lui prend des cellules, on modifie les cellules dans un laboratoire avec le système CRISPR-Cas9. Et puis ensuite, on cultive les cellules et puis on réimplante les cellules cultivées dans l'organisme qu'on veut traiter. Donc ça, la thérapie génique, c'est pas du tout quelque chose qui est propre à CRISPR-Cas9, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les premiers essais thérapeutiques avaient débuté dans les années 90, et puis maintenant on a déjà quelques médicaments qui ont l'autorisation de mise sur le marché, en fait, pour des pathologies comme par exemple l'amyotrophie spinale infantile. Mais donc pour CRISPR-Cas9, il y a de la recherche qui est active par rapport à ça. C'est surtout des essais précliniques qui sont conduits sur des cellules, ces cellules humaines ou des animaux ou des embryons. Et il y a par contre plus récemment quelques essais thérapeutiques chez l'homme qui sont au stade de phase 1 ou phase 2 chez des petits groupes de patients, comme par exemple cette année il y a eu des résultats assez encourageants dans la drépanocytose et la bêta-thalassémie sur donc une thérapie ex vivo qui a été faite par une équipe américaine.
Donc, comme vous venez de le dire, CRISPR-Cas possède un vaste domaine d'application, notamment contre les pathologies génétiques. Mais nous, on a une question concernant la manipulation du génome humain. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Puisqu'on peut prendre l'exemple de ce scientifique chinois, Ré Jiankui, qui a développé les premiers bébés OGM, Lulu et Nana. Est-ce que vous pouvez nous dire si la manipulation génétique est encadrée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des lois ou des organismes qui contrôlent cette manipulation?
Alors oui, bien sûr, il y a des lois qui contrôlent ces manipulations. Donc on peut modifier le génome d'une personne. Par contre, on sait qu'on ne peut pas faire des modifications génétiques qui sont susceptibles d'être transmises à la descendance. Donc on ne peut pas modifier les cellules des cellules germinales, en fait, les cellules qui produisent les gamètes. La France a signé dans ce cadre-là une convention internationale en 2011 qui l'engage à ne pas faire ce type de manipulation. Et en ce qui concerne les embryons humains, il y a aussi, depuis 2013, la France est autorisée à faire des recherches sur les embryons qui ne sont pas destinés à être, qui sont destinés à être détruits. C'est des embryons qui sont issus des procédures de procréation médicalement assistée, donc qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas destinés à être réimplantés dans l'utérus et pour lesquels les parents ont donné l'autorisation que ces recherches puissent être faites. Et donc, c'est quand même quelque chose qui reste assez lourd. Et pour reprendre l'exemple de Loulou et Nana en Chine, cette recherche s'est faite totalement hors cadre législatif. Et donc, c'était même en Chine, en fait, hein, y a des lois qui encadrent ça. Et ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par les scientifiques de façon internationale. Et par contre, on peut imaginer qu'à terme, une fois qu'on aura bien maîtrisé la technique CRISPR-Cas9, à la fois en termes d'efficacité et d'effets indésirables, on pourra éventuellement envisager d'élargir un petit peu la loi pour qu'on puisse traiter des embryons, corriger des erreurs génétiques sur des embryons, plutôt que de supprimer les embryons qui portent les anomalies génétiques, comme on peut le faire dans les procédures de diagnostic prénatal ou surtout de diagnostic préimplantatoire pour les embryons. Et bon, on est encore assez loin de ça.
Alors évidemment, quand on entend ça, est-ce que finalement cet outil, donc CRISPR-Cas, au-delà de son génie, on vient de le dire, représente ou représentera une menace donc pour l'espèce humaine, selon vous ? Je pose la question concrètement.
Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne représente pas une menace pour ça. Donc, pour deux choses, parce que déjà, on n'est pas au point avec cette technique. Hein, y a encore une grande marge d'amélioration. Et aussi parce qu'il y a un cadre législatif important en France sur les questions éthiques, donc particulièrement en France, hein, de façon internationale, mais particulièrement en France sur toutes les questions de bioéthique. Il y a des lois de bioéthique qui sont discutées régulièrement. Et puis sur la manipulation des gènes, comme je vous disais, ce qui a été fait en Chine n'est pas du tout approuvé par la communauté scientifique. Et donc je pense qu'il y a une vigilance de tout le monde, en fait, hein, par rapport à ça.
Et enfin, Pauline Letano et Camille Sayou, dernière question. Auriez-vous une œuvre de vulgarisation scientifique qui vous a particulièrement marqué, plu ou inspiré au cours de votre carrière à recommander à nos auditeurs de Microlab ?
Alors, pour ma part, j'écoute assez régulièrement l'émission sur France Inter qui s'appelle La Tête au Carré et que je recommande à tout le monde.
D'accord. Qui s'appelle du coup La Terre au Carré.
Ça a changé de nom, effectivement.
Voilà.
Et moi, je voulais vous parler du festival Pint of Science qui a lieu normalement chaque année et qui est un festival de vulgarisation scientifique qui se passe dans les bars et où tout le monde peut venir parler de sujets divers touchant à la science.
Eh bien, on vous remercie. Merci Pauline Letano, je le rappelle, médecin généticien au CHU de Grenoble, et Camille Sayou, chercheuse post-doctorante à l'Institut avancé des biosciences de Grenoble. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Microlab épisode 3, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à toute l'équipe, Obi, Emma, Alicia et Louis à la technique. Et merci à nos deux intervenants, Pauline Letano et Camille Sayou. Le podcast est disponible très prochainement sur campusgrenoble.org. Dans la rubrique podcast, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien louper de l'actualité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 10 novembre. Même heure, même radio, même équipe. Salut tout le monde.